suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Il y a un an pile, le 8 septembre pour être précis, le sociologue Alexis Spire était l'invité de cette émission pour évoquer le livre qu'il faisait paraître en cette rentrée-là, « Résistance à l'impôt, consentement à l'État ». Deux mois plus tard, l'acte 1 donnait le coup d'envoi d'un mouvement social dont on ne soupçonnait pas encore l'ampleur ni la durée, le mouvement des Gilets jaunes. Si je tenais à rappeler la publication de ce livre d'Alexis Spire et sa présence à cette antenne, c'est pas tant pour manifester une certaine suite dans les idées que pour souligner que les sciences sociales sont parfois moins déconnectées qu'on l'entend dire de l'actualité, y compris des événements les plus surprenants soient-ils. De fait, les recherches d'Alexis Spire et notamment son travail sur les bonnets rouges furent parmi les premières convoquées pour tenter de comprendre ce qui était en train de se passer avec ces nouvelles mobilisations contre un impôt. Pourtant, ce sont aussi des travaux de sciences sociales et des plus rigoureux qui autorisaient nombre de commentateurs à chaud du mouvement des Gilets jaunes à estimer qu'une mobilisation aussi dispersée, aussi hétérogène, dénuée de revendications comme de leaders, ne ferait pas long feu. Comme ce sont d'autres travaux de sciences sociales tout aussi sérieux qui nous avaient laissé penser, à tort, que l'entreprise Macron n'avait, compte tenu de ce que la sociologie politique nous a enseigné, aucune chance de remporter l'élection présidentielle. Voilà donc un an de passé, une année rythmée par les samedis de mobilisation de Gilets jaunes, dont on se demande d'ailleurs s'ils feront eux aussi un jour ou l'autre leur rentrée. Et dans un essai aussi bref que documenté, le politiste Laurent Jean-Pierre revient prudemment et pertinemment sur cet événement singulier. Il est l'invité aujourd'hui de la suite dans les idées. Il sera rejoint en seconde partie d'émission par Olivia Rosenthal qui fait paraître aux éditions Verticales en cette rentrée « Éloge des bâtards », un roman qui résonne, un roman qui donne à entendre des paroles de personnages, des bâtards mobilisés et qui font preuve d'une certaine imagination politique. On en parle en deuxième partie d'émission. Bonjour Laurent Jean-Pierre, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 8 et vous publiez In Girum, les leçons politiques des ronds-points. Un essai donc de retour sur cette politique giratoire, celle qui a vu le jour à la faveur de ces mobilisations sur ces lieux particuliers de l'urbanisme contemporain, le rond-point. In Girum, on peut commencer par là. Évidemment, tout de suite, on y pense quand on est un peu familier du situationnisme et de l'œuvre de Guy Debord. C'est un clin d'œil à un titre en latin de Guy Debord.
Oui, merci de votre invitation. Alors c'est un titre effectivement qui peut paraître un peu pédant, mais qui est justement construit à dessein pour s'adresser aux lettrés, aux savants, aux praticiens du latin, et qui, d'une certaine manière, à cause d'un certain nombre de présupposés, n'ont peut-être pas toujours vu ce qu'il y avait d'intéressant dans le mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est une adresse au fond aux intellectuels pour leur dire qu'il y avait quelque chose de plus frappant dans ce mouvement et qu'ils n'ont peut-être pas vu. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est une expression qui veut dire en rond et qui, de ce point de vue-là, peut à la fois dire les formes pratiques du mouvement, mais aussi les formes non linéaires du raisonnement que j'ai essayé de développer pour capturer, disons, l'intérêt du mouvement.
Alors ce mouvement, évidemment, il a intéressé tous ceux qui travaillent dans le domaine de la recherche en sciences sociales ou à peu près, parce que il était pas prévu, original, a pris des formes très particulières et en même temps, et tout est dans ce en même temps dans votre livre, si j'ose dire, en même temps, évidemment, pour le penser, on se tourne vers des choses qui lui ressemblent, des choses qui lui ont précédé. Ce que vous faites, vous essayez de voir dans quelle mesure on peut comprendre ce mouvement en le faisant résonner avec d'autres formes de mobilisation, des mobilisations soit anciennes du 19e siècle, soit plus récentes, d'ailleurs qui vous intéressent peut-être davantage pour essayer de comprendre comment la politique est en train de se transformer sous nos yeux. Et au fond, c'est c'est ce que j'essayais de dire dans l'introduction de l'émission, on est en permanence dans cette tenaille entre, évidemment, tous les acquis quelqu'un qui a lu beaucoup de sciences sociales dont il peut disposer, et puis en même temps une forme de curiosité et d'ouverture qui doit pas nous faire rabattre sur ce qui se passe, ce qu'on a appris par cœur avec nos leçons de sciences sociales, Laurent Jean-Pierre.
Oui, alors effectivement le livre est pris dans un double mouvement que vous venez parfaitement de décrire, qui est à la fois d'être fidèle, disons, à l'originalité, notamment pratique, en tout cas formelle du mouvement, hein, qui combine des formes d'action qui existaient déjà, mais qui n'existaient pas nécessairement de manière combinée ou exactement de la même manière. Les occupations existaient avant le mouvement des Gilets jaunes, mais elles ne se faisaient pas sur les ronds-points, plutôt dans les usines, dans des espaces publics différents. Les pratiques émeutières en manifestation existent évidemment depuis longtemps, mais là aussi, articulées à des manifestations non déclarées, c'est pas exactement la même chose. Les assemblées délibératives existent aussi depuis longtemps, et donc c'est cette combinaison de pratiques un peu décalées, un peu dérivé de ce qui existait historiquement, qui fait notamment l'originalité du mouvement. Ajouter à cela le fait que les mobilisés, et là plusieurs débuts d'enquête l'ont montré, et je m'appuie sur elles, sont effectivement des gens qui étaient en tout cas à distance de la politique, voire dépolitisés, voire dégoûtés, disons, des organes politiques. Donc, une originalité du mouvement, et d'un autre côté, pour en saisir, disons, l'exceptionnalité relative, il faut aussi essayer de le mettre en série. De le mettre en série, disons, synchroniquement avec d'autres mouvements, dont je dis qu'ils sont des mouvements, disons, de réinvestissement du local ou du proche en politique, on en parlera probablement, et puis le mettre en série diachroniquement avec des mouvements historiques qui, là aussi, ont essayé d'investir des échelles, des petites échelles du politique.
Alors, au fond, vous vous êtes interrogé pendant, j'imagine, tous ces mois. C'est un livre assez bref. Il y a eu une période probablement de réflexion avant le passage à l'écriture. C'est un livre qu'on peut dire d'entre deux, d'étape, parce qu'à un moment, vous dites, il faudra sans doute attendre des dizaines d'années pour que des historiens travaillent sur les archives, viennent nous expliquer, puisque par exemple, sur mai 68, on découvre encore des tas de choses aujourd'hui, ce qui s'est passé vraiment. Donc, vous n'avez pas pris la plume à chaud, vous avez laissé passer un tout petit peu de temps. Là, on est quelques mois après. Vous vous gardez bien de pronostiquer l'avenir ou la fin de ce mouvement, d'ailleurs, Laurent Jean-Pierre.
Oui, alors bon, d'une manière générale, je suis très sceptique vis-à-vis des tentatives des sciences sociales pour prédire l'avenir. Même si je pense que, moyennant un certain nombre de réglages méthodologiques, on peut dire des choses, disons, sur le possible, probable, improbable. Bon, ce sera peut-être l'objet de...
On risque de se tromper.
D'autres travaux. Mais en tout cas, ici... disons que le point de vue de l'ouvrage, ça a été à la fois de proposer une première synthèse de travaux éparpillés qui d'ailleurs souffrent de la division du travail intellectuel. Il y a eu d'autres tentatives de synthèse auparavant, et puis d'autre part de frotter en quelque sorte le discours savant et les croyances militantes, ou en tout cas le discours savant et l'idéologie, hein, et en voyant dans ce frottement quelque chose de productif, donc en jouant parfois l'un contre l'autre. C'est-à-dire les croyances militantes qui déjouent au fond des pronostics savants, et puis des savoirs scientifiques qui peuvent déjouer justement des espérances militantes exorbitantes. Et au fond, c'est dans ce frottement que j'ai essayé de travailler, en étant tout à fait conscient du fait que effectivement l'archive d'un tel mouvement, et ça c'est une donnée plus générale, l'archive au fond des mouvements de protestation aujourd'hui est une archive démultipliée par les réseaux sociaux, et donc ça pose des problèmes majeurs à toute observation historienne, sociologique, politiste, puisqu'en réalité on est face à une masse d'informations très difficilement traitables, et donc là il faut en tirer un certain nombre de conséquences, je pense, pour l'étude des mouvements sociaux en général, ce que j'essaie de faire en passant entre les lignes.
Vous le soulignez à l'instant, ce mouvement a déstabilisé au fond aussi bien les observateurs dans le monde de la recherche que les militants politiques traditionnels dans les partis, dans les syndicats, dans les associations. Et ces personnes, d'un côté comme de l'autre, ont eu du mal aussi à exprimer publiquement leurs commentaires sur le mouvement sans être apostrophés par des membres de ce mouvement qui n'avaient pas l'intention de se laisser parler, comme on dit, et qui ont résisté. Peut-être, c'est là l'une des originalités les plus fortes de ce mouvement d'ailleurs, résister encore plus fort. Ce genre de résistance existe traditionnellement, mais là, très 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 fortement, au point que finalement des porte-paroles ont existé, mais temporaires, ont été en permanence mis sur la sellette. Ça, c'est l'une des caractéristiques les plus saillantes, probablement l'une des originalités les plus fortes de ce mouvement des Gilets jaunes. Vous insistez beaucoup là-dessus, Laurent Jean-Pierre.
Oui, vous décrivez en fait deux phénomènes que j'essaye de travailler. Le premier, c'est au fond la critique, l'extension de ce qui a existé historiquement de là aussi depuis au moins un demi-siècle, mais qui existe en réalité depuis probablement le début du XXe siècle, c'est-à-dire une critique de la représentation politique, une critique des représentants, de l'écart entre représentants et représentés, une défiance envers la distance mentale, existentielle, économique, politique entre les représentants et les représentés. Cette critique est étendue par le mouvement à une critique de tous les professionnels de la représentation, c'est-à-dire effectivement les chercheurs, les intellectuels, un certain nombre de médias les partis, les syndicats, etc. Donc ça c'est un premier élément. Et puis à l'intérieur du mouvement lui-même, quand des figures de proue émergent, eh bien il y a une forme de jeu de massacre qui se met en place, et une forme de tentation de destitution permanente. Qui fait que quelques leaders ont surnagé de la phase des derniers mois, mais en réalité le mouvement se caractérise par une prolifération des chefs temporaires, qui est une certaine manière de récuser les autorités symboliques cristallisées. Donc oui, c'est un mouvement qui est profondément critique de la représentation, et j'ajouterai un dernier point. Cette critique de la représentation va jusque ce que j'appelle dans l'ouvrage la critique de l'abstraction politique, c'est-à-dire au fond une critique des idéologies, du discours, c'est-à-dire d'une certaine manière de concevoir la politique à partir des idées, comme dans le Grand Débat par exemple.
Alors au fond, l'hypothèse peut-être centrale qu'on peut faire en vous lisant, qu'on pouvait faire aussi en lisant un article qui peut paraître un peu décalé, mais très pertinent pour comprendre ce mouvement, un article de Michel Auferlet et Julien Fretel sur le courrier envoyé au président Hollande, c'est l'hypothèse au fond d'une crise de la définition du politique. C'est-à-dire qu'au fond, ce que ce mouvement serait venu remettre en question, c'est le principe que la politique est définie par des professionnels de la politique, elle doit rentrer dans des boîtes, et l'expression politique de ce mouvement a pris soin, d'une certaine façon, de ne pas être rangeable, classable dans ces boîtes. Que ces boîtes soient confectionnées par l'administration, les ministères, ou qu'elles soient confectionnées par les médias. C'est-à-dire qu'au fond, des questions éminemment politiques n'étaient plus considérées comme politiques, et les questions politiques n'intéressaient pas, visiblement, un certain nombre de gens qui faisaient la démarche d'aller sur les ronds-points ou d'aller manifester dans la rue le samedi. D'où une espèce de grand malentendu, au fond, autour de cette définition de la politique.
Tout à fait. C'est-à-dire que, en réalité, la population qui a été mobilisée dans ce mouvement, une population, comme je l'ai dit tout à l'heure, à distance des organisations politiques, pour partie un tiers dans les enquêtes qui ont été proposées ou qui ont été faites jusqu'à présent, qui n'embrasse pas tout le mouvement, dont disons une fraction importante d'abstentionnistes ou une fraction importante de vote extrémiste, mais relativement volatile, etc. Dans cette population, au fond, le discours politique des organisations politiques instituées, en particulier de gauche, n'intéresse pas. Et donc, du coup, y a deux manières de voir ce désintérêt. Soit on le voit comme une forme d'incompétence politique, soit on le voit comme une sorte de proposition en puissance, voire positive, disons, d'une autre manière d'énoncer la politique. Et donc là, évidemment, c'est une sorte de pari à la fois interprétatif, de pari de lecture, qui peut être aussi un pari politique. Certains pourraient le qualifier de populiste, ce pari, au fond, de connaissance et de regard. Mais le pari, c'est que effectivement, cette manière d'énoncer la politique, elle est plus... En tout cas, elle a une forme de force qu'elle n'avait pas autrefois, et dans ce mouvement, elle en a acquis. Alors, c'est quoi cette énonciation de la politique? C'est une énonciation, effectivement, du quotidien, du vécu. Il y a plein de témoignages dans la presse et effectivement avec les caméras et sur les ronds-points là qui donne une idée de ce qu'a été cette énonciation, qui évoque par exemple, on en reparlera probablement tout à l'heure, les liens intergénérationnels, c'est-à-dire l'importance justement de parler des conditions pas simplement de sa propre vie mais aussi de la vie de ses parents et de la vie de ses enfants. Et j'ai été assez attentif à ce point au fond de projection temporelle dans le passé et dans le futur, parce qu'il me semble être un des points qui permet d'expliquer que des groupes sociaux très différents, des fractions de classe très différentes, comme disent les sociologues, ont pu malgré tout avoir ou construire un langage commun précisément autour de cette question du rapport à l'avenir ou du rapport au passé.
Alors les ronds-points, justement, c'est l'un des traits saillants de ce mouvement, le fait que des gens aient choisi de se retrouver là. Alors, évidemment, un des premiers éléments de réponse, c'est de dire, au fond, c'est des lieux très fréquents aujourd'hui, on est le pays au monde qu'on compte le plus, etc. etc. Mais enfin, ce qui a alerté, frappé un certain nombre d'observateurs, et pour lequel j'aimerais savoir si vous avez des hypothèses, des explications, c'est le fait que ce mouvement se soit situé dans ces lieux et qu'il n'apostrophe pas, au fond, les lieux les plus traditionnels des mobilisations politiques, et notamment de mobilisations qui touchent aux questions économiques et sociales. C'est-à-dire qu'au fond, jamais les entreprises ont été visées par ce mouvement. Et même, de façon assez surprenante, on n'a jamais vu la question du chômage, dont on sait qu'elle est centrale depuis des dizaines d'années dans ce pays, notamment pour ces catégories sociales qui étaient mobilisées. On n'a jamais vu cette question mise en avant par les gens qui étaient mobilisés, comme si au fond ils avaient fini par accepter un discours de la fatalité, comme si au fond ils avaient fini par accepter l'idée que ce n'était pas tant le monde économique ou les entreprises qui étaient responsables de cette situation du marché de l'emploi, mais bien plutôt des dirigeants politiques incapables de mettre en œuvre des politiques publiques qui pourraient avoir un quelconque effet sur cette situation, Laurent Jean-Pierre.
Oui, alors vous avez effectivement raison de souligner ce point. Bon, il y a deux aspects. Il y a un aspect, disons, superficiel, formel, qui a à voir avec les pratiques d'occupation et de blocage dont j'ai parlé plus tôt, et le choix, disons, des ronds-points. Il y a un livre qui m'a intéressé en écrivant celui-ci, c'est celui du philosophe de l'architecture Eyal Weizmann, qui avait là aussi, de manière finalement prémonitoire, mais je mets tous les guillemets, écrit un livre qui s'appelait Les révolutions de ronds-points, il y a 2 ans, et qui s'intéressait justement à la montée des ronds-points comme lieu d'investissement politique, au même titre que par exemple les barricades ou les grands boulevards au 19e et au 20e siècle. Et il parle au sujet des ronds-points d'acupuncture politique. C'est un endroit qui tactiquement est un endroit intéressant parce qu'il permet justement de bloquer des flux, d'arrêter des circulations et donc en réalité d'intéresser à sa cause d'une certaine manière, de manière plus directe. C'est un endroit qui est important dans le périurbain et donc qui est un des lieux où ont été rassemblés beaucoup de gilets jaunes. Donc on peut effectivement comprendre d'une certaine manière pourquoi le rond-point est fédérateur. Mais plus profondément, pour saisir ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire le désintérêt apparent du mouvement pour les problématiques, disons, du travail, de l'économie quotidienne, de l'entreprise, là, il faut revenir un peu à sa sociologie, puis il faut revenir aussi un peu à l'histoire de longue durée des mouvements sociaux, ce que je fais après de nombreux autres, c'est-à-dire que je rappelle effectivement que la politisation du lieu de travail, elle est plutôt en déclin, qu'elle est de plus en plus difficile, que le taux de syndicalisation baisse, que le taux de participation à l'activité syndicale dans les syndicats baisse aussi. Et donc tout ça, ce sont des données, en quelque sorte, de longue durée ou de moyenne durée, qui pèsent évidemment sur le mouvement. Et donc mon hypothèse ici, c'est que les difficultés de politisation du lieu de travail effectivement entraînent un déplacement du lieu d'investissement politique vers des formes de localité, rond-point, place publique, ZAD éventuellement. J'ajoute un dernier point. Les premiers gilets jaunes n'étaient pas vraiment proches du chômage. En réalité, ce sont des gens qui avaient des salaires minimums, qui avaient plutôt une fois et demi le salaire minimum. Donc, en réalité, ce sont des insérés qui étaient soit salariés, soit indépendants. Et parfois, il y avait des petits patrons dans le début du mouvement. Donc, il y avait une proximité au fond aussi au petit patronat et donc à la hiérarchie dans l'entreprise, à l'intérieur même des premiers participants au mouvement, qui, en quelque sorte, fait que l'entreprise n'a pas été, problématisée politiquement.
Alors, j'aimerais maintenant vous donner l'occasion de dire 2 mots des analyses que vous proposez qui concernent cette fois la réaction politique du pouvoir du président de la République, du gouvernement, face à ce mouvement. Vous insistez sur le fait que cette réaction est double et qu'on ne peut la comprendre que si on tient les deux bouts. D'un côté, on a vu une répression policière sans précédent, qui elle-même n'est pas nouvelle. Elle est l'évolution de quelque chose qui s'est mis en place depuis de longues années, mais qui a été intensifiée. Et de l'autre côté, la mise en place d'un autre processus qui lui aussi n'est pas nouveau, qui consiste à proposer des dispositifs qu'on appelle participatifs, avec donc ce grand débat national. Au fond, ces deux éléments font système pour vous, Laurent Jean-Pierre.
Oui, alors c'est une hypothèse qui devra être travaillée. Disons que mon hypothèse, c'est que les formes de lutte étant en train de changer, les formes de ce que j'appelle le gouvernement des luttes sont effectivement amenées aussi à se déplacer ou à se reconfigurer. Bon, donc à partir de là, je regarde qu'est-ce qui a été employé là et est-ce que c'est inscrit dans des séries historiques un peu robustes. Bon, l'augmentation des violences policières, des arrestations préventives, ça c'est inscrit dans une série historique de moyenne durée de 10-15 dernières années qu'on peut décrire, qui n'est pas d'ailleurs uniquement française, qu'on pourrait décrire en Espagne, qu'on peut décrire évidemment dans des régimes plus autoritaires, etc. Donc il y a effectivement une tendance à la réponse répressive à ces nouvelles formes de lutte qui va croissant. Et il y a aussi une tendance au développement des dispositifs participatifs. Alors il y a un débat qui est tout à fait intéressant sur justement est-ce que le vrai débat a été un dispositif participatif. Mes collègues qui sont spécialistes de ces questions répondent généralement non à cette question. Et donc, disons plutôt dispositif pseudo-participatif. Je note aussi que dans ses déclarations d'avril 2019, Emmanuel Macron a rappelé que la démocratie participative était essentielle, je le cite, et on voit bien que la question, disons, du développement des dispositifs participatifs locaux à l'occasion notamment des élections municipales de 2020 va être probablement posée. Donc c'est un ensemble, disons, de faits qui me laisse penser qu'il y a quelque chose du côté à la fois de la main droite et de la main gauche de l'État. Du côté de la main droite, un surcroît de répression. Du côté de sa main gauche, non pas une redistribution économique qui est devenue impossible sous condition de néolibéralisme et de politique d'austérité, mais effectivement une redistribution de la parole qui n'affectera pas nécessairement les politiques publiques. Et on voit d'ailleurs que finalement, alors que ce livre a été écrit, disons, a été fini début juillet 2019, on nous resserre la soupe du grand débat à l'occasion de la réforme des retraites qui scandera une partie de l'année politique à venir.
Je voulais vous soumettre une autre hypothèse un peu générale à propos de ce mouvement et qui nous renvoie à ce qu'on disait à propos de la définition du politique, Laurent Jean-Pierre. Au fond, on peut procéder à des comparaisons qui semblent peut-être hardies, mais d'une certaine façon, dans quelle mesure ce mouvement se compare à ce qu'on avait vu qui s'était appelé Nuit debout, Place de la République. C'est pas les mêmes caractéristiques sociales, si on regarde bien qui sont les gens qui ont pris part à Nuit debout, qui sont des urbains dotés de capitaux économiques et culturels sur tout peut-être plus important. Mais j'irai encore plus loin, une autre comparaison, l'électorat du nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Est-ce qu'au fond, on n'a pas là, Nuit debout, l'électorat de Macron, qui pouvait d'ailleurs se reconnaître en partie dans ce qu'on a appelé le mouvement des pigeons, qui était une autre forme de contestation de l'impôt, mais pas venue des mêmes segments de la société, et puis les gilets jaunes. Au fond, trois remise en question de la définition du politique venue d'horizons sociaux extraordinairement différents, mais qui, d'une certaine façon, convergent, se rejoignent pour s'en prendre à ce que beaucoup d'entre eux peut-être appellent l'ancien monde, Laurent Jean-Pierre.
Alors, en tout cas, je suis d'accord avec vous pour dire que, en gros, les organisations politiques, syndicales, issues, disons, de l'après-deuxième guerre mondiale et en particulier de la Cinquième République, sont malmenées. Qu'elles ont été malmenées par Emmanuel Macron et qu'elles sont malmenées par le mouvement des Gilets jaunes. Et certains ont pu voir, et je ne suis pas en désaccord non plus avec cela, en quelque sorte, le mouvement des Gilets jaunes comme un mouvement en miroir.
Voire
en boomerang de l'élection d'Emmanuel Macron, puisqu'au fond, le ni droite ni gauche, ou l'apartisanisme du mouvement, comme l'ont dit certains de ses participants, peut être mis en rapport avec le en même temps macroniste, etc. Donc, Oui, il y a cette critique au fond des organisations, elle est partagée. Mais au fond, ce qui m'a intéressé dans les points communs qu'on peut dessiner entre des phénomènes politiques nouveaux, relativement rares, qui ont lieu en ce moment en France et à l'étranger, ce qui m'a intéressé, c'est autre chose. Vous avez parlé de Nuit Debout. Ce qui m'a intéressé, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est précisément que dans des groupes sociaux très différents sociologiquement, il y a des formes de lutte qui sont semblables et qui prennent le local comme lieu, ou le territorial, ou le proche, comme lieu d'investissement. Alors après, effectivement, il y a des tonalités différentes. Nuit Debout est très centrée sur le dispositif, disons, d'assemblée, alors que j'ai essayé de dire que, justement, les ronds-points étaient plus sceptiques, peut-être, par rapport à ces formes de démocratie délibérative, et plus ancrés dans des formes d'entraide locale, dans des formes, justement, de solidarité située, etc. Donc, si vous voulez, mon hypothèse générale, c'est que oui, il y a une critique des représentants, une critique des organisations instituées, une critique de la gauche, qui, dans des groupes sociaux différents, se fédèrent autour d'un réinvestissement théorique et pratique du proche.
Je l'ai pas encore signalé, mais chacun des quatre chapitres de votre livre, Laurent Jean-Pierre, In Giroum, qui paraît donc à la découverte, s'ouvre par une citation d'un poète, Jean-Michel Espitalier, qui avait publié en 2016 « Tourner en rond, de l'art d'aborder les ronds-points ». Pourquoi ce choix qui vous guide au fond dans cette réflexion ?
Eh bien, écoutez, parce que si on prend la peine de lire ce livre, on voit qu'en réalité un grand nombre des figures de raisonnement que j'essaye de mettre en place dans mon propre livre sont capturées de manière, par fragments, par Jean-Michel Espitalier, parfaitement 2 ans avant. Alors je vais pas à partir de là, disons, défendre l'idée de l'artiste en prophète. On en parlera probablement dans la deuxième partie de l'émission. Mais en réalité, c'est vrai qu'effectivement, on peut trouver, disons, des lignes conductrice pour l'écriture ou pour le raisonnement, évidemment, dans la littérature comme dans tous les arts.
Et de littérature, il sera question dans la deuxième partie avec un roman qui résonne par rapport à cette situation, celui d'Olivia Rosenthal, Éloge des bâtards. Olivia Rosenthal nous rejoint tout de suite. C'est après un extrait du nouvel album de la songwriter de Auckland, Taylor Vick, qui sous le nom de Boy Scout, publie Free Company, extrait Get Well Soon.
Dans les idées, Sylvain Bourmont.
Can you still feel what you don't see is truthful or real, but you see me is truthful and real, baby, it was the real deal.
gilet jaune de rond-point de politique qu'il est question aujourd'hui à la suite dans les idées avec Laurent Jean-Pierre qui fait paraître aux éditions La Découverte Injiroom en cette rentrée et avec Olivia Rosenthal qui publie aux éditions Vertical Éloge des bâtards. Alors Olivia Rosenthal, on disait tout à l'heure que l'une des particularités de ce mouvement des gilets jaunes était le fait qu'il résistait ou que ses membres résistaient à l'idée qu'il puisse être parlé. Vous, dans votre roman, vous mettez en scène un personnage qui parle les gens au fond, puisque vous partez de cette espèce de pouvoir télépathique de se glisser dans la peau des autres, Olivia Rosenthal.
Oui, c'est vrai que le personnage principal, Lily, elle a un pouvoir très bizarre qui est la télépathie et elle ne sait pas très bien quoi en faire. Je dirais que c'est aussi une manière de parler de la politique, au sens où je pense que une manière d'être représentant en politique, c'est d'être capable de représenter, c'est-à-dire aussi, à un moment donné, de se mettre à la place. Et justement, tout à l'heure, on parlait des places, on parlait des ronds-points, et c'est-à-dire que ces gilets jaunes, comme mes personnages, en fait, ils sont à la recherche de la place qu'ils pourraient occuper, et je dirais la place qu'ils pourraient occuper, c'est au sens strict, sur le territoire. Et donc, pour trouver sa place, pour représenter, je pourrais dire, pour être représentatif politiquement, il faut être capable de se mettre à la place de quelqu'un. Et je dirais, il y a trois solutions pour se mettre à la place de quelqu'un. La première, c'est être télépathe, mais bon, ça, c'est pas donné à tout le monde, sauf à quelques-uns.
La littérature le permet.
Voilà, ça, c'était la deuxième manière de se mettre à la place, c'est d'écouter et de parler, et donc d'être dans un rapport d'échange. Et c'est un peu ce que raconte le livre, c'est-à-dire c'est des gens qui parlent et qui s'adressent les uns aux autres et qui se racontent leur vie les uns aux autres. Et donc, ça, c'est une manière de construire une place. Et la troisième manière, c'est ce que vous avez dit, je pense que c'est un peu la littérature. La littérature comme une manière, à un moment donné, de comprendre, en fait, quelle est la place de chacun ou quelle est la place qu'il veut prendre. Voilà, c'est un peu ces trois chemins-là que j'essayais d'explorer un petit peu par ce livre.
Mais alors justement, ce livre, quel rapport a-t-il entretenu, enfin l'écriture de ce livre, avec cette actualité? Est-ce que vous l'avez terminé pendant ces mois-là? Dans quelle mesure il est un écho, au fond, de ces questions? Parce que vous inventez des personnages que vous appelez bâtards, qui se retrouvent, qui parlent beaucoup, et qui sont à l'initiative d'actions, est-ce qu'on peut les qualifier de politiques? Oui, mais qui viennent, elles aussi, remettre en question les définitions un peu habituelles de la politique, Olivia Rosenthal.
Oui, c'est-à-dire que bon, le bouquin, il a été écrit, il a été commencé bien avant ce mouvement des Gilets jaunes. Simplement, je pense que même si, comme le disait Laurent Jean-Pierre, les sciences sociales n'ont pas le sens de la prémonition, on a quand même, sans doute que des signes nous sont parvenus, sans peut-être même qu'on le sache vraiment. Et puis, il y a une histoire de ces mouvements actuellement, il y a les ZAD, enfin, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se produire sur le plan de l'action politique, qui est justement la constitution d'actions politiques locales, qui est le rapport au territoire, etc. Donc, je pense que, oui, ça a joué un rôle, mais de manière un peu tangente, disons, et transversale, puisque, au fond, moi, ce qui m'intéressait plus, au départ, mais les deux choses se sont rejointes, finalement, c'est vraiment d'interroger les généalogies, les histoires familiales, la manière dont ces histoires familiales sont... dont on peut ou non s'en affranchir, et au fond, s'affranchir de son histoire familiale, c'est un geste politique. C'est un petit peu ça que raconte aussi le livre.
Mais là encore, on retrouve quelque chose qu'a souligné Laurent Jean-Pierre tout à l'heure sur l'intragénérationnel, sur l'importance de ces liens finalement qui pour comprendre ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Mais Laurent Jean-Pierre, plus généralement, sur ce que la littérature... vous parlez de Jean-Michel Lespitalier à l'instant, de ce qu'il vous avait apporté au fond pour penser la manière qu'a la littérature de sentir comme ça des choses. Je pourrais citer aussi, elle était l'invitée de l'émission Avant l'été, Emmanuel Pierrère, dont le roman qui paraît en cette rentrée parle d'une certaine façon d'une forme de grand débat national, alors même qu'elle l'a écrit avant. C'est troublant ces phénomènes, Laurent Jean-Pierre.
Oui, c'est la puissance de la fiction. Hein. J'ai effectivement, moi ce que j'ai ce que j'ai beaucoup apprécié dans le livre d'Olivia Rosenthal, c'est justement, elle décrit quelque chose de situé, bon, historiquement, probablement, mais elle écrit aussi quelque chose d'un peu intemporel, en tout cas, dans la période contemporaine. Ce sont effectivement des personnages qui se réunissent, alors appelons ça avant-garde, appelons ça groupuscule, appelons ça communauté, appelons ça contre-société. Il y a plein de mots pour ça, il y en a eu, appelons ça conspiration. Il y a plein de mots pour ça, il y en a eu beaucoup historiquement. Et puis, voilà, ils se sentent seuls au monde et ils ont une forme de parole qu'on a pu bon éventuellement voir sur les ronds-points, mais il faut pas forcément les échos. Et effectivement, l'intuition très forte que véhicule le livre, c'est cette idée que pour transformer le monde, au fond, il faut aussi transformer ses origines. Il faut inventer sa généalogie ou la réinventer. Il faut d'abord la dire et probablement la réinventer. C'est-à-dire qu'il faut il faut pas simplement faire rupture, mais réinventer l'origine pour se désidentifier et sauter dans le vide de l'histoire. Et ça m'a effectivement beaucoup plu. Je pense que c'est une question politique centrale.
Et cela passe, Olivia Rosenthal, par la parole, par l'échange de la parole, par la palabre, au fond, entre ces personnages, et donc aussi par le groupe, aussi restreint, aussi petit soit-il, il y a une forme de communauté.
Oui, c'est un bon. Il y a des modèles, hein. Il y a des modèles antiques, même. Il y a le modèle du banquet. Au fond, le banquet, c'est ça. C'est des gens qui se réunissent autour d'une table pour parler. Donc ça, c'est un modèle. Effectivement, c'est un groupe très petit. Ça, c'était aussi important parce que c'est vraiment du localisme, mais c'est vraiment un groupuscule. Et si on pense aussi toujours en termes de politique, je dirais que. Le fait même de prendre ce temps-là, je dis, d'être ensemble et de prendre ce temps alors qu'on est un activiste, alors qu'on est en danger, puisqu'en fait c'est une société de surveillance dans laquelle ces personnages sont en danger, alors qu'il y a des risques à courir tout le temps.
C'est la nuit, souvent.
Voilà, ça se passe uniquement la nuit. Et donc ces personnages prennent le temps de se raconter les uns aux autres leur histoire. Je dirais que ce temps-là, c'est déjà très subversif au fond. Est-ce qu'on a encore le temps? La nuit, ou le jour d'ailleurs, mais la nuit, est-ce qu'on a encore le temps de raconter cette histoire-là qui est l'histoire de ses origines rompues, de ses... Non, en fait, enfin, des fois on le prend, mais au fond, cet espace-là est déjà un espace, on pourrait dire, une vibration politique, une résistance. Et donc, voilà, ce livre-là, c'est l'histoire de ces gens, de ces paroles. Moi, ce qui m'intéressait, je dirais, sur le plan vraiment, alors pour le coup, littéraire, c'était de travailler sur la parole directe, d'essayer d'expérimenter, pour moi qui ne l'avais pas encore fait dans mon travail d'écriture, cette espèce ce rapport harmonique à la parole des uns qui réagissent aux autres, de travailler sur le tiret, enfin vous voyez, des choses un peu...
Tout ce dispositif de télépathie, cette astuce au fond.
Voilà, ce dispositif de télépathie, c'est aussi une manière, c'est aussi que ce personnage-là, le personnage de Lily qui donc parle, c'est un texte qui est écrit quand même à la première personne. Il a un souci au fond par rapport aux autres, c'est que il n'est pas un bâtard, on va dire au sens strict, si tant est qu'un sens strict existe pour le mot bâtard. Mais enfin bon, ça, je sais pas si on aura le temps d'en parler. Et donc c'est presque une imposteur, je sais pas comment on dit, ce personnage-là, il est décalé par rapport aux autres, et le danger qu'il court, c'est de connaître l'histoire des autres trop vite, mieux qu'eux. Et donc son travail à ce personnage, c'est d'entrer en résonance avec les autres, d'apprendre à les écouter sans devancer, au fond, leurs paroles et leurs pensées, d'apprendre à être à la bonne distance. Je dirais qu'au fond, c'est un petit peu aussi une figure de l'écrivain qui, moi, je fais beaucoup d'entretiens, en fait, quand je prépare mes livres. Donc là aussi, j'en ai fait des entretiens avec quelques bâtards parmi mes proches. Et c'est compliqué de trouver la distance. À la radio, on le sait bien aussi. Quelle est la bonne distance que l'on va trouver pour entendre quelque chose que quelqu'un raconte de son intimité, jusqu'où on va? Et donc la télépathie, c'est un moyen de raconter ça, au fond.
En lisant Olivia Rosenthal, moi, je me suis, au fond, interrogé en préparant cette émission, en me disant, mais d'une certaine façon, on aurait aimé pouvoir avoir accès à ce qu'ont pu se dire sur les ronds-points tous ces gens pendant toutes ces nuits qui se sont probablement racontés leur vie, leurs origines. Et dans quelle mesure ce mouvement a écrit sa propre histoire. Finalement, assez peu, on l'a vu très réticent au fait que cette histoire puisse être écrite par des médias, etc. Mais finalement, mais peut-être on va découvrir plus tard des traces de tout ça. Elles n'ont pas encore été très visibles, je trouve, Laurent Jean-Pierre.
Il y a cette masse énorme quand même des pages Facebook, des activités sur les réseaux sociaux, bon, qui constituent ce que j'appelais tout à l'heure cette nouvelle archive au fond de l'espace public et ici de la politique protestataire, une archive au fond très difficile à appréhender. Comment on l'appréhende aujourd'hui? On l'appréhende comme on appréhende le grand débat, c'est-à-dire on fait de la lexicométrie,
des mots clés, des data.
On travaille de manière très très massive, très quantitative. Donc voilà, il y a une poétique des Gilets jaunes qui a été d'ailleurs mise au jour par quelques collègues en théorie de la littérature.
Denis Saint-Amand.
Tout à fait. Et donc du coup, voilà. Bon, alors une des archives moi qui m'a beaucoup intéressé, elle est insuffisante et qui m'intéresse d'ailleurs généralement, c'est l'archive alors des écritures murales et ici des écritures sur les gilets eux-mêmes. Hein. Il y a un site internet que je recommande à toutes et à tous qui s'appelle Plein le dos et qui donne justement à voir ces écritures. Bon, alors c'est un début justement d'appréhension de la diversité de cette parole.
Mais Plein le dos, c'est intéressant parce que là justement c'est à la fois des textes écrits mais directement sur le corps et donc voilà, là aussi ça raconte quelque chose sur l'investissement personnel dans une action politique. C'est aussi ça qui est en jeu, par exemple, dans ce livre, c'est comment chaque individu est engagé dans son expérience, et cet engagement-là est déjà, au fond, un engagement politique.
Éloge des bâtards, c'est le titre de votre livre, Olivia Rosenthal, qui paraît, comme les précédents, aux éditions Verticales. Indie Room, c'est le titre de votre essai, Laurent Jean-Pierre, qui paraît à la Découverte. On trouve les références bibliographiques de ces deux ouvrages sur la page de l'émission, la page de la suite dans les idées sur le site de France Culture, une page où vous pouvez réécouter en streaming l'émission autant de fois que vous voulez, une page sur laquelle vous pourrez aussi vous abonner au podcast. Pensez à mettre à jour vos abonnements au podcast parce qu'ils s'arrêtent au bout d'un certain temps et en général durant l'été. Voilà, c'était la suite dans les idées. Attachée de production, Marie Dalquier. À la technique aujourd'hui, Valérie Lavalard. À la réalisation, Marie Placé. Dans quelques instants, c'est Christine Bernard que vous retrouvez sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.